le 6-9 de l'été, sur France Inter.
8h10, bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Député du Finistère, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Vous avez suivi, bien sûr, dans l'hémicycle, le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès hier. Je sais que je ne réussis pas tout, je viens avec humilité. Est-ce qu'Emmanuel Macron découvre la modestie ?
Non, simplement il l'a exprimé. Vous savez, Emmanuel Macron, que je connais bien, est un homme qui est à l'écoute, qui est proche des gens, qui est à l'inverse de l'image que parfois on véhicule ici ou là. Donc il fallait quelque part qu'il exprime sa sincérité et il l'a fait hier.
Est-ce qu'il est à l'écoute des critiques de l'opposition, des doutes de la majorité, des Français sceptiques dans les sondages ?
Non, mais enfin, il est surtout, si vous voulez, à l'action. À l'action pour faire que, un an, on constate que l'investissement est reparti, qu'on a mis fin au scandale du tirage au sort dans les universités, qu'on a mis en place le dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés, qu'on a sauvé la SNCF, rétabli les finances publiques. Il est surtout à l'action. Vous savez, écoutez, lire, il faut toujours écouter et lire les commentaires. Mais ce que les Français attendent de nous, c'est de l'action et des résultats.
Vous parlez de la dépense publique, Richard Ferrand. Selon le Figaro, ce matin, Bercy ne table plus sur un excédent budgétaire en 2022, mais seulement sur un simple équilibre des dépenses publiques, notamment parce qu'il faut reprendre la dette de la SNCF et il faut gérer la suppression de la taxe d'habitation. Vous confirmez qu'on n'aura pas d'excédent budgétaire à la fin du quinquennat ?
Je ne confirme rien du tout, je ne suis pas Bercy. Ce que je veux simplement vous dire,
c'est que... C'est dans le Figaro, hein ?
Oui, oh bah écoutez, c'est pas une raison suffisante pour que j'en fasse ma propre thèse. Mais ce qui est vrai tout de même, c'est que si on arrivait déjà à l'équilibre, ce serait tout de même assez remarquable après des décennies de déficit chronique, donc il faut aussi regarder les choses comme ça. Le choix a été fait pour sauver la SNCF d'investir plus, de reprendre la dette. Alors quel sera exactement l'impact en 2022? Je trouve toujours ces prévisions un peu aléatoires.
C'est Emmanuel Macron qui avait fait des prévisions
en
annonçant
qui est bon.
Des excédents.
C'est le cap qui est bon, puisque on voit bien que nous avons permis de revenir en deçà des 3% du PIB de déficit public, que la dette est mieux maîtrisée. Donc le cap est bon, la trajectoire est bonne, et c'est cela qu'il faut poursuivre.
Emmanuel Macron nous disait hier qu'il y aurait des mesures fortes en matière de dépenses publiques, des choix forts et courageux. On attend toujours les annonces concrètes. Il y a ce fameux comité Cap 22 qui travaille. Alors où est-ce qu'on va couper à un moment ou à un autre? Il faut peut-être le dire.
Écoutez, nous sommes début juillet,
oui.
On va préparer les documents budgétaires et les discussions vont avoir lieu comme l'an passé, d'ailleurs à même date, pendant l'été.
Les débats d'orientation budgétaire commencent cette semaine.
Oui, mais les choses seront concrètement dévoilées au fur et à mesure du temps et dès la rentrée. Mais là-dessus, il n'y a pas de surprise. Lorsque nous disons que nous voulons des politiques pour l'emploi plus actives, qui n'installent pas tout le monde dans la précarité, qui fassent que on puisse retrouver le chemin de l'emploi et pas simplement être entretenu dans des situations de précarité.
C'est ça la baisse de la dépense publique ?
Non, c'est pas que ça, mais il faudra aussi avoir une conception plus active de la dépense publique.
Sur la question des retraites, hier, le président de la République dit « rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui ». Ça veut dire que ça va changer pour les retraités de demain ?
Bien, d'abord, il faut souligner ce que vous venez de dire, parce que il y a eu toute une série de rumeurs, de fake news sur les pensions de réversion vont être remises en cause. Donc tout ça, ce fut du mensonge.
Dont voilà. Acte.
Donc c'est terminé.
Et demain.
Ensuite, ce que nous disons, c'est qu'il faut que nous ayons des retraites qui fassent que 1 euro cotisé rapporte la même chose à chacun à la retraite. Ça, c'est l'axe de travail. Et ensuite,
Jean-Paul Delevoye qui travaille sur cette question.
Jean-Paul Delevoye, il travaille. Ça veut dire que c'est une idée de retraite plus juste. Et ensuite, ce que nous voulons faire en sorte, c'est que les pensions de réversion soient plus justes, puisque celles-ci découlent d'un système qui aujourd'hui n'est pas juste et qui, par conséquent, crée des écarts. Alors, ce qui est très important, pourquoi...
Pensions de réversion plus justes, ça veut dire qu'elles seraient modifiées pour certaines personnes.
Attendez, je ne vais pas vous expliquer la réforme que nous allons aborder en 2019 après toutes les concertations qui vont être menées. Mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ça qui est fondamental, c'est que à notre époque, nous avons des carrières qui sont hachées, c'est-à-dire des périodes de chômage, des périodes d'interruption de travail. Bref, il n'y a plus guère de carrière linéaire qui fait que l'on reste 30 ans dans la même entreprise et donc que l'on peut envisager quelle retraite on va avoir. Donc, si on veut recréer de la justice, il faut que chaque fois que l'on cotise, cela rapporte pareil à chacun. Et donc, et de là, le moment venu, hélas, si l'on est victime d'un veuvage, eh bien la pension de réversion, elle est directement issue de la retraite acquise, par le défunt. Et donc c'est par ce biais-là que l'on doit estimer que comme tout sera plus juste, les pensions de réversion le seront aussi.
Le président de la République annonce que la Constitution sera réformée pour qu'il puisse débattre avec les parlementaires lors des prochains congrès, qu'il puisse échanger avec eux. Jean-Luc Mélenchon crie victoire et victoirissime même sur Twitter. Et vous, parce qu'à 3 semaines, vous étiez contre ce dispositif, vous aviez rejeté un amendement de l'opposition en ce sens, en commission des lois.
En 2008, lorsque le constituant a fait en sorte que le président de la République puisse venir s'adresser au Parlement. D'ailleurs, permettez-moi de dire que la majorité qui avait fait ça était une majorité de Nicolas Sarkozy.
Oui, avec une voix socialiste.
Et ce sont les premiers à venir dire qu'est-ce que c'est que cette démarche monarchique, etc. Donc, vous voyez,
mais alors cet amendement avec lequel
attendez,
vous n'étiez pas d'accord.
J'y viens. Moi, je considère que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement, ce n'est pas le président de la République. Alors, maintenant, le président a dit qu'il faudrait que l'exécutif, d'une manière ou d'une autre, réponde aux différents parlementaires qui ont en effet parfois le sentiment de prêcher dans le désert. Donc, on voit bien que ce droit de message est finalement inaccompli. Alors, il faut sans doute trouver une manière d'organiser la réponse de l'exécutif qui prenne acte de ce que les responsables parlementaires lui auront dit, selon quelle modalité. Nous allons en discuter.
Et justement, les débats sur la réforme constitutionnelle débutent cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci
beaucoup. Et ce soir, malgré le match.
Malgré le match. Vous êtes valeureux. Merci beaucoup Richard Ferrand, président du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale.